الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers sœurs, chers amis, voilà déjà la deuxième rencontre. J'aimerais en préambule, bien entendu, remercier Madame la ministre, Monsieur le ministre également ici présent, remercier encore le cher Mansour Si pour cette invitation avec la fondation qui nous reçoit et qui présente depuis hier, en tout cas pour ce qui me concerne, mais déjà depuis la première visite au mois de mai, son impact sur la population et en même temps l'exigence qu'elle a de faire en sorte qu'une vraie réflexion et un vrai débat sur l'islam s'enracine ici au Sénégal. Alhamdulillah, nous devons de ce point de vue-là les en remercier. Jazakumullah anna kull khair. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est un sujet, vous l'avez entendu à maintes reprises, aujourd'hui d'une importance capitale. Reste qu'il faut se poser la question, est-ce que nous abordons ce sujet parce que nous en entendons parler partout chez les personnes et à partir des personnes qui sur l'islam ont une opinion négative, en disant que la vraie question aujourd'hui c'est la discrimination que les femmes subissent en islam? Est-ce que c'est parce que d'autres ont choisi le sujet que nous voulons l'aborder? Ou est-ce que, fondamentalement, nous prenons conscience qu'à la lumière de nos sources islamiques, il est un véritable problème concernant l'écart qu'il y a entre ce que nos sociétés présentent par rapport à la situation de la femme et ce que nos sources et nos références nous disent, à savoir le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, je crois qu'effectivement la conscience que nous devons avoir, c'est aujourd'hui d'aborder un sujet, non pas parce que partout dans le monde on met en évidence le fait que la situation de la femme en islam est une situation de discrimination, mais bien que nous personnellement, musulmanes et musulmans, nous nous rendions compte qu'aujourd'hui, il y a un véritable défi dans la question, dans cette question spécifiquement, devant Dieu, pour nos sociétés et pour construire notre avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'écart est phénoménal. L'écart entre ce que nous dit la tradition islamique et ce que proposent nos sociétés est phénoménal. Beaucoup de choses de ce que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui ne correspondent pas au message de l'islam. Beaucoup de traditions qui sont présentées comme des traditions islamiques ne sont pas des traditions islamiques. Beaucoup d'habitudes qui ont été prises sont des habitudes qui n'ont rien à voir avec la source et la référence, et en tout cas pas avec l'exemple de notre prophète bien-aimé, alayhi wassalam. Raison pour laquelle il faut revenir à cette source et éviter de faire une chose, à mon sens, très importante. Quelle est-elle? Cette interpellation est très fréquente aussi chez des gens que nous pouvons rencontrer sur la route, et qui nous disent, oui, mais regardez vos sociétés islamiques, ou majoritairement musulmanes, regardez dans quel état elles vivent, Regardez par exemple la situation de la femme. Et nous, de répondre par un islam idéal en disant « Non, mais l'islam ce n'est pas ça, c'est... » Et on parle du chapelet de toutes les merveilles que l'islam présente et qui sont vraies. Mais on ne répond pas à une analyse sur le terrain par une théorie dans l'idéal. On est interpellé au cœur de notre application de l'islam. On n'est pas interpellé dans nos rêves. L'islam effectivement présente une image et une présence de la femme fondamentalement positive. Mais il y a une différence entre l'islam et ce qu'en font les musulmans. Il y a une différence extrêmement importante entre notre message et ce que nous proposons aujourd'hui comme société. Et on ne peut pas continuer, chaque fois qu'on nous interpelle sur l'analphabétisation, chaque fois qu'on nous interpelle sur la discrimination, dire « oui, mais le Coran dit ça, oui, le Coran dit ça, et qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous faites dans vos sociétés ? Est-ce que vous appliquez véritablement le message de l'islam ? Est-ce que chaque fois qu'on nous interpelle sur la réalité, nous parlerons du texte, et quand nous parlons on nous interpelle sur le texte, nous répondons par la réalité ? L'une des choses importantes aujourd'hui, et qui est, je crois, dans la décision d'avoir organisé une discussion sur ce sujet, c'est effectivement de se dire, des interpellations nous sont faites, la société dans laquelle nous vivons pose des problèmes, nous avons en tant que musulmanes et en tant que musulmans à y répondre de la façon la plus claire et la plus précise possible, en dégageant des perspectives d'avenir. Raison pour laquelle je vais vous proposer une réflexion en trois moments. Le premier moment, c'est une chose qui est à la fois simple, mais nécessaire. Le passage obligé par nos deux sources. À savoir, pendant quelques minutes, de revoir sur un certain nombre de plans qu'est-ce que nous dit le Coran et qu'est-ce que nous dit la tradition du prophète A.S. sur la femme et sa condition. Il est important que chacun ait dans l'esprit une vision claire de ce que nous dit notre tradition. Pourquoi ? Parce que c'est là où ça lui permettra de faire la différence entre des choses qui ont été associés à l'islam et qui ne sont pas de l'islam, entre des habitudes qui ne sont pas islamiques, de faire la différence entre le corps, le cœur, l'essence, la dimension intrinsèque que l'islam donne à la femme dans notre religion et tout ce que les sociétés y ont ajouté, parfois de façon discriminante. Donc il faut passer par là. Ensuite, on se posera la question, ce sera une deuxième partie plus courte, sur comment expliquer aujourd'hui qu'il y ait un aussi grand écart entre les textes et les références islamiques et la situation actuelle. Parce qu'il faut bien qu'on se pose la question de savoir quelles en sont les causes. Car qui veut résoudre un problème, qui veut trouver le remède, doit connaître la maladie et sa cause. Il n'y a pas de médecin qui ne connaisse pas la cause de la maladie qu'il traite. Et donc, en l'occurrence, il faut nous poser la question de savoir pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et la dernière partie, ce sera les perspectives d'avenir. Comment, Inch'Allah, ensemble, nous avons à relever le défi de nos responsabilités pour répondre au défi de ce futur qui s'annonce difficile, mais qui s'annonce comme étant celui auquel nous avons à faire face devant Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre responsabilité personnelle et collective. Alors allons-y. Prenons d'abord une première dimension. L'islam, que dit-il dans ses fondements et dans l'exemple du prophète alayhi wassalam. Alors, on peut distinguer 5 ou 6 parties sur lesquelles, de ce point de vue-là, nous avons à réfléchir. Le premier élément, il est fondamental, il est celui de l'être. Parce que souvent, dans un certain nombre de textes qui parlent de la femme en islam, on passe tout de suite de la femme à l'épouse. Or, avant qu'elle ne devienne épouse, une femme est une femme. Qu'est-ce que dit le Coran sur l'être de la femme ? Est-ce que de ce point de vue-là, il y a devant Dieu une différence ? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'est l'être de la femme devant Dieu, créature parmi les créatures, et l'homme ? Eh bien, le Coran, de ce point de vue-là, nous répond clairement. Nous avons dans Sourat An-Nisa le premier verset : « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin » وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ô vous les gens, attention, ce n'est pas ô vous qui portez la croix, c'est ô vous les gens, perspective large sur tous les gens. Ayez la crainte de Dieu qui vous a créé d'un être unique et qui a tiré de cet être son épouse. Et il en a fait, il les a disséminés en hommes et en femmes, en quantité nombreuse. En d'autres termes, l'origine de la femme, l'origine de l'homme sont uniques, une et unique. Et en plus de ceci, même par rapport à la tradition chrétienne, même par rapport à ce qui est considéré comme la tradition où on présente Adam alayhi salam et puis son épouse qui aurait été tentée en islam, rien ne permet cette lecture. Il n'y a pas de tentation féminine sur l'homme dans ce qui s'est passé au début de la création. Et même si on lit l'ensemble des versets, on n'a pas le temps de faire toute cette lecture-là, qui est une lecture extrêmement précise, on s'aperçoit que celui qui a été tenté sur la majorité des versets, c'est l'homme. D'abord, c'est Adam alayhi salam qui lui a commis l'erreur. Et donc, on a soit le duel en arabe, c'est-à-dire les deux, soit l'interpellation à l'homme. Et on n'a pas du tout cette notion de la femme cause du péché originel. Mais on a cette dimension extrêmement importante chez nous. Elles sont de la même nature. Mais ce n'est pas tout. Immédiatement après la notion de la même nature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pour nous la compréhension importante que nos responsabilités devant Dieu sont les mêmes. Aux femmes comme aux hommes, il est demandé, vous le savez. Mais il ne faut pas simplement le savoir, il faut le méditer. Il ne faut non pas simplement le méditer, il faut l'enraciner dans notre vie quotidienne, de prier, d'avoir une spiritualité personnelle, de se poser la question intimement, personnellement, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, et puis également de donner la zakat, également imposée aux femmes ici, et bien ce que nous avons, c'est une dimension de faire le bien. Il est dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Quiconque d'une femme ou d'un homme qui fait le bien, qui agit, يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, c'est-à-dire qui agit pour le bien, qu'il soit homme ou femme, eh bien, ces personnes entreront au paradis. Elles ne subiront aucune injustice. Donc la dimension pour nous qui efface complètement toute notion, fondamentalement dans la création de la femme, d'une diminution. Et là, certains sont allés chercher dans l'exemple du prophète, alayhi salam, ou dans la tradition, quelques hadiths qui sont de ce point de vue-là à lire de façon extrêmement spécifique. Mais ce qui ressort fondamentalement de notre religion, c'est que la femme est de la même origine et que les mêmes obligations religieuses lui sont demandées et que de ce point de vue-là, c'est une égalité d'être devant l'être Allah subhanahu wa ta'ala qui est exactement égalitaire. Et toutes ces dimensions, il faut bien pour nous personnellement la comprendre. Tout à la fois, et ça j'aimerais aussi beaucoup insister, pour les hommes de l'Assemblée, mais pour les femmes également. Parce que certaines aussi de ce point de vue-là, ont par rapport même à leur pratique l'idée ou l'idée acquise qu'elles peuvent être plus légères par rapport à leur pratique. Et là, il faut que la réponse soit claire. Aux hommes comme aux femmes, une pratique extrêmement exigeante est demandée parce qu'ils procèdent de la même nature devant Allah subhanahu wa ta'ala, raison pour laquelle nous trouvons dans le Coran El Muslimin wal Muslimat, wal Mu'minin wal Mu'minat, wal Sadiqin wal Sadiqat, wal Sadiqin wal Sadiqat, wal Sabirin wal Sabirat. Vous avez toute cette façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en disant vous êtes de la même et vous procédez de la même nature. Première dimension donc, qui est connue de vous tous, mais qu'il est extrêmement bon de rappeler au moment où on va entrer dans ce que dit l'islam de la femme et de son rôle pour nous dans notre tradition. Deuxième élément, parce que là vous voyez, on parle de la femme et on ne va pas directement à l'épouse. On va à la femme et à son être. Puis ensuite on se pose la question et on réfléchit à cette deuxième dimension de l'être. Car un être, il est devant Dieu et il s'éduque devant Dieu. Alors il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que dit l'islam sur l'éducation. Parce que là, c'est un des plus grands, et on verra dans la suite de l'exposé, que c'est l'un des plus grands problèmes. Le droit qui est violé et discriminé au sens où il produit la discrimination de femmes le plus important dans les sociétés musulmanes est celui-ci, de l'éducation. Or, rien dans nos traditions ne permet ce que nous sommes en train de faire. Rien du tout. Au contraire. Nous avons une responsabilité d'éducation extrêmement importante. Et ce que nous avons ici, c'est que selon Ahmad, radiallahu anhu, il a mis en évidence que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a une fille, qui ne la tue pas, qui ne l'insulte pas, et qui ne la discrimine pas dans l'éducation par rapport à son fils, eh bien celui-ci, il lui est promis le paradis. » Vous avez entendu ?
Oui,
Seul lui qui ne la discrimine pas dans l'éducation par rapport à son fils. Et qui dit ça? Le Mustafa, alayhi salam. C'est le prophète Muhammad ibn Abdullah qui nous enseigne ceci. Et il n'a pas dit ceci uniquement. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit « Man ala jariyatayni hatta yablugha fa huwa wa ana yawm al-qiyama kahatayn » Le prophète alayhi salam a dit « Celui qui donne l'éducation à deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, il est avec moi le jour du jugement dernier. » Comme ses deux doigts. Donc le prophète a énormément insisté sur l'éducation des filles en disant, et puis vous connaissez le Coran, comment par étapes il a fait justement qu'on cesse dans la tradition de Ahl Quraysh le fait de tuer les femmes. Quand la jeune fille qui a été enterrée vivante demandera pour quelle cause elle a été tuée. Donc on est parti du fait de lui donner la vie au fait que le prophète salam, met en évidence l'éducation. L'éducation est jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté. Deux filles, il va au paradis. Il est avec le prophète salam, au plus haut des paradis à qui donne l'éducation à deux de ses filles. Et celui qui ne fait pas la différence entre sa fille et son fils, le prophète salam, lui promet le paradis. N'est-ce pas des choses qu'il faut revisiter dans notre tradition? N'est-ce pas des choses qu'il faut revoir avec cœur et détermination pour savoir exactement ce que nous dit l'islam et non pas ce que nous faisons par habitude et même parfois par paresse. La deuxième dimension également, c'est que de l'avis de tous les savants, quand il y a le hadith qui met en évidence « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim » la demande de la science est une obligation pour tous les musulmans et toutes les musulmanes. C'est l'exigence de savoir et qui est ici l'être même de la femme. On n'est pas en train déjà de parler de son rôle spécifiquement familial et social. L'être de la femme, sois devant Dieu, adore Dieu, pratique devant Dieu, éduque-toi pour Dieu. Voilà ce qui est demandé à chacun d'entre nous, aux hommes comme aux femmes. La troisième dimension, elle est également très importante, parce qu'encore, vous voyez, je ne suis même pas encore arrivé à nos rôles spécifiques. Pourquoi? Parce qu'on va trop vite. Chers frères et chères sœurs, nous allons trop vite quand nous parlons de la question de la femme, immédiatement vers les fonctions. Qu'est-ce que tu as le droit? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous dire ce dont nous avons le droit et ce dont nous n'avons pas le droit, il nous a dit ce que tu es. Qu'est-ce que tu es avant d'avoir le droit et de ne pas avoir le droit? Qui es-tu d'abord avant de savoir ce que tu peux faire? Et parle de la femme en sachant qui elle est avant de savoir ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que c'est le plus grand des aveuglements. Je t'enlève ta liberté, je ne t'ai même pas dit ce que Dieu disait que tu étais. Et ça, c'est nos sociétés parfois, trop rapidement, et on verra pourquoi, on se posera la question tout à l'heure. Il y a une chose qui est importante par rapport à ça, c'est que le prophète salam, nous a mis en évidence pour tout le monde. Et là aussi, il y a une égalité totale. Autant il y a une égalité dans l'être, il y a une égalité dans l'éducation. Le prophète salam, et Allah nous ont enseigné qu'il y a une autre égalité dans quoi? Dans une des choses qui est très importante pour nous, c'est une façon d'être. Regardez, être devant Dieu, s'éduquer pour Dieu, une façon d'être avec les hommes. Et qu'est-ce que c'est cette façon d'être? Un des noyaux de cette façon d'être, c'est la dimension de la pudeur. C'est la dimension de la réserve. C'est la dimension de la pudeur. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, إِنَّ مِمَّا أَذَرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبَوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْمَعْ مَا شِئْ. Parmi les premiers enseignements que les hommes ont retenus, des premières révélations, des premiers envoyés, quel était-il cet enseignement? Si tu n'as pas de pudeur, si tu ne crains pas Dieu, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il nous est demandé à tous. Et là, j'aimerais que ce soit entendu, parce que certains supposent que la pudeur est une qualité féminine et non pas une qualité masculine. La pudeur est une qualité islamique, pour tout musulman et pour toute musulmane. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande uniquement aux femmes, c'est une attitude dans la vie qu'on demande à tous. Et c'est très important pour nous. Quand nous voyons ce qui est en train de se passer dans le monde, et vous en avez des exemples par la télévision interposée et la presse, où toute pudeur est oubliée, quand la pudeur est oubliée, c'est fais ce qu'il te plaît, et quand tu fais ce qu'il te plaît, il n'y a ni valeur, ni limite, ni sens, il y a la permissivité totale, et nous dirons également aussi une chose de la liberté que nous revendiquons, mais pas la liberté de faire n'importe quoi. La liberté d'être, pas la liberté de s'oublier. De s'oublier au sens de faire n'importe quoi. Eh bien, ici, ce que nous avons, c'est que nous avons une double dimension. D'abord, la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit et qui nous rappelle que nous avons, de ce point de vue-là, à être pudiques, à faire attention à nos regards. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Ô prophète, dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. Le verset, le premier verset, s'adresse aux hommes. C'est avant le second verset. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Il vient avant ce deuxième verset qui dit quoi ? Écoutez bien, parce que c'est très important dans notre société. La pudeur, c'est la préservation du regard par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que dans notre regard, il y a la possibilité de s'arrêter à l'apparence de l'être que l'on regarde. Et ce que Allah SWT nous demande, c'est de respecter son être. Baisse ton regard et préserve ta chasteté. Et il dit à tous les croyants, et dit tout de suite aux croyants, de faire de même, de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Alors, par rapport à cette question-là, Ali, karramallahu wajha, était allé demander au prophète, alayhi salam, conseil. Et le prophète lui avait répondu, la première vision que tu peux avoir d'une femme, elle est naturelle. Mais la deuxième, attention. En d'autres termes, le naturel, tu ne peux pas aller contre. Mais la conscience doit te faire maîtriser le deuxième regard qui serait un regard de concupiscence et de regard qui s'arrêterait à l'apparence de cette femme. Ceci existe. Mais ce qui est demandé aux hommes et aux femmes, c'est de baisser leur regard avec chasteté et en faisant attention à établir entre eux une relation d'être, non pas une relation d'apparence. Et ce qui est une chose qui vient en plus et qui est importante pour nous, c'est que dans le Coran, dans la suite du verset qui concerne les femmes, il est dit « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en apparaît « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Alors, de l'avis de tous les savants, la question du voile dont on a fait un énorme sujet de discussion est de l'avis bil-ijma, est une question qui est une obligation de l'islam. Alors, ce qui est demandé à l'homme et à la femme, c'est de préserver leur regard avec pudeur. C'est ça, le qasd, c'est la pudeur. Et ce qui est demandé, c'est le port de ce qui couvre les cheveux et qui fait en sorte qu'on ne voit pas les apparences du corps. C'est-à-dire qu'il ne colle pas, donc qu'il ne soit pas moulant et qu'il ne soit pas transparent. De l'avis de tous les savants, ceci est mis en évidence et ceci nous renvoie à une chose sur laquelle j'aimerais être clair. Dire que c'est une obligation de l'islam, c'est dire ce que les savants ont dit. Mais regardons comment cette obligation est venue et tirons-en quelques enseignements. Ce qui nous est prescrit à tous, hommes et femmes ici, partout où nous sommes, c'est cette pudeur. Et la révélation de ce verset, les deux versets que l'on connaît, surat al-Nur et surat al-Ahzab, la surat de la lumière et la surat des alliés, eh bien, elle est venue lors de la cinquième année de l'Hégire selon la recension de Suyuti. C'est-à-dire qu'il a fallu 15 ans, 14 à 16 ans, disons, pour que la révélation commence à rappeler la foi, pour arriver à dire, quand tu chemines dans la foi, voilà ce que tu dois faire pour préserver ta chasteté. Il y a eu un formidable, une longue de 15 ans éducation spirituelle pour arriver à comprendre ce que pudeur voulait dire. Et cette pudeur par rapport à la femme. Donc la première des choses que nous retenons de cet enseignement, retenez-le bien, c'est qu'on n'impose pas le voile. C'est que le voile est une obligation, il ne peut pas faire l'objet d'une contrainte. C'est un acte de foi. Il a fallu 15 ans à la révélation pour amener les femmes à comprendre ce que ça voulait dire et amener à faire, de ce point de vue-là, comprendre aux musulmans et aux musulmanes, attention, il y a dans vos attitudes respectives, les uns avec les autres, les unes avec les autres, des attitudes qui peuvent avoir une influence sur votre foi. Attention à la protéger. Il a été mis en évidence par les savants une chose très intéressante. Si il est demandé à la femme de porter le voile, c'est parce que le plus faible d'entre les deux, ce n'est pas la femme. La réalité, c'est que le plus faible, c'est l'homme. Et que le regard sur la femme est beaucoup plus, le regard de l'homme sur la femme est beaucoup plus fragile que le regard dans sens inverse. Et que ce voile est une protection pour le plus faible d'entre les deux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et que ceci est une orientation de la société musulmane. Alors ce que nous retiendrons de cette pudeur, parce que l'essentiel de tout ce que je suis en train de mettre en évidence ici, c'est cette pudeur à laquelle nous devons nous retenir, nous en tenir fondamentalement. Elle est de nous dire à tous, dans le chemin que tu fais pour aller vers Dieu, dans ton rapprochement que tu fais pour aller vers Dieu, certains atteignent des niveaux dans leur foi, et certaines de la même façon atteignent des niveaux. Nous n'avons pas à contraindre les gens à agir contre leur conscience. Par contre, nous avons, chacun d'entre nous personnellement, à évoluer tous les jours davantage pour parvenir à cette pudeur qui fait la société musulmane, respectivement, dans les hommes et dans les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir demandé aux hommes de baisser leur regard, il dit « Inna Allah khabirum bima tasna'un ». Allah subhanahu wa ta'ala, il fait « C'est très bien ce que vous faites, quand personne ne vous voit, mais lui, il est là ». Quand personne ne voit, parce que c'est plus facile de faire voir une femme qui se voile en disant « Voilà, c'est une femme qui est musulmane. » Mais un homme qui peut mettre son regard partout, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit et il lui est dit « Khabirum bima tasna'un ». Attention, si personne d'entre les hommes te voit, il te voit. Et de ce point de vue-là, à chacun, il nous est demandé une pudeur fondamentale. C'est ce que le prophète ﷺ nous a enseigné et c'est ce que nous devons préserver entre nous fondamentalement. Les femmes comme les hommes. Si je récapitule rapidement, procède d'un même être, le droit et le devoir d'avoir une éducation et la nécessité dans la société musulmane de faire preuve de pudeur. De pudeur et de retenue dans la façon dont nous sommes les uns avec les autres. Et ceci est fondamental. Nous sommes une société qui privilégie l'être. Et si je te respecte, si je respecte ma sœur en islam, c'est pas dans les apparences qu'elle me montre, c'est dans l'être qu'elle m'impose. Elle m'impose un être. Tu ne peux pas, mon frère, tu ne dois jamais, mon frère, t'arrêter à la surface de mes apparences, parce que tu ne me respectes pas devant Dieu. C'est ceci qui nous est enseigné dans l'islam. Ne t'arrête pas. Et c'est ce qu'une femme dans la société musulmane doit faire comprendre aux hommes. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas des formes, je suis un être que tu respectes devant Dieu. Et tout mon acte est de faire que tu le respectes. Et ça demande une attitude. Et l'on sait que ça demande une attitude de sérieux. Aucune femme ici, comme aucun homme, ne sait pas à partir de quel moment on passe du sérieux au moins sérieux à carrément le pas sérieux du tout. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a des choses qui sont des limites qu'il faut se préserver. Tilka hududullah fala ta'taduha. Préservez-vous de cette façon d'être qui fait qu'on ne vous respecte pas dans votre être. C'était le troisième élément. Le quatrième élément, et là il est aussi important, c'est dans le mariage. Alors maintenant, on est effectivement, on va parler de l'épouse et de l'époux. Parce que c'est aussi une dimension qui est l'accomplissement après l'être de la femme, après son éducation, après son comportement, son rôle au niveau du mariage et quels droits lui sont donnés de ce point de vue-là. Alors, vous connaissez le verset célèbre qui est dans Sourate Ar-Rum, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes, il a créé de vous, tiré de vous des épouses pour que vous reposiez auprès d'elles et il a établi entre vous la bonté et la miséricorde, la bonté et l'affection. il y a en ces signes, il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Vous savez que ce verset est le dernier verset révélé dans le Coran concernant la relation de l'homme et de la femme. En d'autres termes, on est commencé dans le Coran, et vous savez que sur 23 années de révélation, le Coran a chaque fois évolué. Il a amené les gens d'un côté, le Quraysh, les Arabes comme ils vivaient sans Dieu, à apprendre avec Allah subhanahu wa ta'ala comment le comportement était. Et ce qui nous est dit dans la relation de l'époux et de l'épouse, c'est qu'il a établi entre vous, c'est le dernier message, c'est la dernière révélation, il a établi entre vous l'affection et le pardon, la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset sourate Ar-Rum qu'effectivement ce que nous devons retenir de notre relation de famille, c'est cette dimension de repos l'un pour l'autre et de tendresse et d'affection. J'aime beaucoup rappeler ceci aux musulmans. J'aime beaucoup rappeler aux musulmans ceci parce que parfois ils en reviennent au texte et la seule chose qui les intéresse, c'est le principe. Et ils oublient toute la dimension de cœur, d'amour et d'affection qui doit s'établir dans le couple. Et nous avons de ce point de vue-là, dans le texte coranique, des choses qui sont très importantes. Dans le texte coranique, nous avons un autre verset très important. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce rapport de couple, dans ce mariage, qu'est-ce que l'on cherche? Quel est le but fondamental avec le fait de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le mariage, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, nous a-t-il été dit, le pardon, l'affection, la miséricorde entre nous. Mais plus que ça encore, on va trouver la protection. La femme, pour l'homme, dans ce mariage, elle est la protection de son mari. Et le mari, pour la femme, il est la protection de son épouse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous parler de deux dimensions. Tu as la dimension qui est chez toi, à la maison, et tu as la dimension à l'extérieur. Et vous savez tous, vous le savez à plus forte raison par la grande pression culturelle qu'il y a sur votre pays. C'est qu'il y a plein de choses qui pourraient atteindre notre cœur de l'extérieur. Il y a plein de choses qui sont des désirs que l'on met dans notre tête, des désirs qu'on met dans notre cœur, des attirances que l'on met à l'extérieur. Il n'y a pas un frère ici du plus jeune au plus âgé, il n'y a pas une sœur ici de la plus jeune à la plus âgée qui ne connaisse pas ceci. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Zuyyina linnas hubb ash-shahawat min an-nisaa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal-fidda. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci, le monde il est fait pour nous attirer, dans quoi? Dans ce qui est la dimension de la sexualité, dans ce qui est la dimension même de nos enfants, dans ce qui est la dimension de la richesse. Ce monde, il a une capacité sur nous tous, il n'y en a pas un d'entre nous ici qui ne l'ait pas vécu ou qui ne le vive pas, on est attiré par des choses de ce type-là, hommes et femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la solution. Quand on est marié, c'est un des rôles du mariage, la protection. Je suis pour toi, ma femme, ici, dans ce lieu, dans cette demeure, la protection de ton cœur à l'extérieur. Parce que si je sais être ton mari, je protège ton cœur. Et si tu sais être ma femme, tu protèges mon cœur de la même façon. Nous avons à développer cet amour entre nous, cet amour qui était là. Le prophète Rasulallah lui-même a vécu ceci. Un jour, il est rapporté qu'il marchait dans la rue et il voit une belle femme. Il a vu une belle femme et il le dit et il nous est rapporté qu'il s'en est retourné vers qui? Zainab, radiallahu anha, son épouse, sa protection. Parce que quand tu vis tes désirs dans le licite, c'est une aumône. Quand tu vis tes désirs dans l'illicite, c'est un péché. Eh bien, cette dimension pour nous de protection, elle est la protection de l'amour. Elle est la protection de la relation de cœur. Une chose qui est fondamentalement importante pour nous et que nous devons développer de la façon la plus profonde. Et il nous est dit également, pour notre dimension à nous, un certain nombre de devoirs et un certain nombre de choses dont nous devons nous rappeler dans notre vie de couple. Alors, qu'y a-t-il dans cette dimension et du rôle spécifique des uns et des autres? La première des choses dont nous devons nous souvenir, c'est la chose suivante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: وَعَلَى الْمَوْلِيدِ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. À celui qui est le père et à celui qui est le garant de la famille, il a un devoir. Et ça, c'est le devoir fondamental de l'homme, celui de subvenir aux besoins de sa famille. Un homme doit pouvoir subvenir et doit faire en sorte de subvenir aux besoins de sa famille. Et attendez bien que tous les savants ont mis en évidence une chose: pour la femme, c'est un droit. Mais attention, un droit n'est pas une chose qui est obligatoire, raison pour laquelle il y en a certains qui ont pris le droit en disant: puisqu'elle a ce droit-là, elle ne doit pas travailler, ce qui est faux. Elle a le droit d'avoir de la part de son mari, là où elle vit, les besoins couverts par le travail de son mari et par l'apport de son mari. Ça, c'est ce qui nous est dit dans le Coran. Et ce qui nous est dit également dans cette dimension: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hommes ont direction, responsabilité garantie sur les femmes par la préférence que Dieu a voulu de l'un sur l'autre et par le fait qu'ils dépensent de leur argent. Et cette dimension a été lue par un certain nombre de savants de façon très très restrictive, en disant: l'homme est supérieur à la femme, ce qui est en contradiction avec tout ce que nous avons dit. Par contre, ce qui est mis en évidence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme responsabilité sur les épaules de l'homme, dans la dimension familiale, le fait d'avoir à subvenir à ses besoins. Ça ne veut pas dire qu'on empêchera les femmes de travailler, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, l'homme a une obligation majeure en islam, celle de subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille. Et cette dimension, pour nous, elle doit être comprise, fondamentalement réfléchie, dans l'organisation de la famille. Et ici, pour nous, ce qui est une des choses sur laquelle nous tiendrons vraiment, même aujourd'hui dans notre société contemporaine où tous les repères sont mis en cause, il y a dans l'islam effectivement cette notion d'un homme responsable de son foyer sur le plan financier, responsable de son foyer sur le plan de l'orientation. Mais responsable, ça ne veut pas dire dictateur. Parce que certains ont mal compris. Parce que certains partent de ce que je viens de dire en disant: ah, mais donc ça veut dire que c'est moi le chef. Mais entre la responsabilité qui te met au service de ton foyer et le chef qui met toute sa famille à son service, c'est pas tout à fait pareil. Et là, on a une chose qui est très très importante. Vous savez que dans le Coran, il y a deux références à la notion de shura. Il y a deux références à la notion de shura qui est la concertation. Deux références sur le plan social. Amruhum shura baynahum, c'est-à-dire les musulmans se concertent ensemble dans leurs affaires. Et puis un autre, washawirhum fir amr, est-il dit au prophète alayhi salam, concerte-les dans les affaires. Et puis il y a un petit verset qui dit ceci, qui dit dans la perspective qui est la nôtre: wa in arada fisalan an taradin minhumma aw tashawurin fala junaha alayhim. Et ça parle de quoi? C'est un verset qui parle du sevrage, du fait de cesser d'allaiter un enfant. Et regardez ce que nous dit le Coran, réfléchissez bien. Si tous deux, qui la maman et le papa, les deux du couple, désirent cesser, après un accord entre eux ou une concertation, il n'y aura pas de mal à cela. Regardez, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, pour décider de sevrer ton enfant, si vous vous êtes mis d'accord, donc il nous met en évidence ici la concertation entre l'homme et la femme, pour la décision par rapport à son enfant, cela veut dire qu'à l'intérieur du couple, il a utilisé le même terme qu'à la dimension sociale. Tashawurin. Tashawur, shura, c'est la même racine. C'est-à-dire une concertation, on discute ensemble des affaires de la famille. Ce n'est pas une responsabilité dictatoriale, c'est une responsabilité participative, partagée, qui pose comme centre dans la tradition familiale la discussion et la notion de débat interne, de dialogue entre les deux partenaires dans le couple. Et donc ici on a ceci, c'est dans le Coran qu'on trouve cette dimension. Alors, certains, à partir de cela, donc on a dans la dimension du couple deux dimensions, dans la perspective du couple deux dimensions. La première, quelle est-elle? Celle qu'on a mis en évidence, à savoir la protection mutuelle, à savoir l'affection, l'amour, la miséricorde et le pardon, et puis la concertation. Et puis quel est le meilleur exemple? Le meilleur exemple, c'est le prophète, dont il est dit que par rapport à son attitude à la famille, il participait au devoir ménager, il participait à tout. Il n'y a qu'une seule chose qui l'arrêtait. Vous savez ce que c'est? C'est exactement ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Quand il y a l'appel à la prière, rien ne l'arrête. Il partait prier. Mais quand il était à la maison, il était serviable. Il était en concertation. Il était présent dans le dialogue avec ses épouses. Et vous savez comment on le sait? Mais très simplement, combien y a-t-il de hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha? Combien il y en a? Comment aurait-elle pu regarder, observer, écouter le prophète sallam s'il ne lui avait pas parlé? Si le prophète sallam avait eu l'attitude, que un centième de l'attitude que nous parfois on a avec nos femmes, qu'est-ce que nos femmes pourraient dire de nous dans ce que nous avons dit alors que souvent nous ne leur avons pas parlé? Parce que ça manque beaucoup dans nos couples. Parce qu'à l'intérieur de la tradition musulmane, il y en a certains qui ont perdu cette dimension du dialogue à l'intérieur, de la concertation, du temps que l'on prend ensemble à prendre des décisions. Eh bien, ça c'est une dimension sur laquelle il faut insister. Vient ensuite des choses que je vais rappeler rapidement parce que je n'ai pas le temps dans une conférence aussi courte de tout mettre en évidence, mais il est important qu'on en parle. Ce dont il est important qu'on parle, c'est, par exemple, pour la préparation du mariage ou le fait du mariage lui-même. Alors là, il y a une chose qui est aussi extrêmement importante. Une femme est allée vers le prophète, A.S.A.M. Elle avait été mariée par son père sans son consentement. Et le prophète, A.S.A.M. était prêt à la séparer. Et elle lui a dit, non, je suis contente de ce choix. Et c'est pour que les femmes sachent qu'on ne peut pas imposer à une fille le fait de se marier contre son gré. Ça veut dire qu'une femme, par son silence, même en islam, elle peut choisir son mari et on ne peut pas le lui imposer. Contrairement à ce qui se fait dans beaucoup trop de pays musulmans où la jeune fille ne sait même pas qu'elle a ce droit. On lui impose et là, le prophète A.S.A.M. était prêt à faire et à imposer un divorce parce qu'on l'avait marié sans consentement. De la même façon également qu'on dit l'homme a le droit à la répudiation et la femme n'a pas le droit au divorce, ce qui est faux également. Le rôle est une des dimensions importantes du fiqh. Une femme peut demander le divorce et une femme est allée vers le prophète A.S.A.M. et elle lui a dit qu'elle craignait de faire quelque chose qui était contre l'islam parce que son mari ne lui plaisait plus, elle l'avait vu dans d'autres, il ne lui plaisait plus et le prophète A.S.A.M. lui a dit « Est-ce que tu es prêt à rendre ce qu'il t'a donné ?»« Oui, je suis prêt. » Il lui avait donné un jardin et il lui a permis de le faire. Cela veut dire que même dans la dimension du divorce et de la séparation, il y a des droits pour la femme qu'il faut que l'on reconnaisse, mais pas tout à l'homme et rien à la femme. Ici, dès l'époque du prophète, et vous entendez des orientalistes et vous entendez des gens aujourd'hui qui disent de l'islam, l'homme seul a droit à la répudiation et il n'y a absolument rien pour les femmes. Et là aussi, j'aimerais mettre en évidence une chose qui est beaucoup trop fréquente et qui avait beaucoup fâché Omar, radiallahu anhu, c'est cette facilité que les frères et les sœurs ont à parler du divorce. Parmi les choses permises de Dieu, elle est la plus détestée. Parmi les choses permises de Dieu, parce que le divorce est possible, elle est la plus détestée. Et il faut apprendre, en particulier les hommes, à cesser de dire chaque fois qu'on est fâché, je divorce.